À la fin de l'année 2024, nous avons commencé un cycle de lecture de livres qui parlaient d'antifascisme. Pour s'instruire, entendre les voix en lutte et s'outiller face à la montée du fascisme. Lors de notre première rencontre, nous avons lu des extraits du livre « Abat l'État, les flics et les fachos », fragment d'une lutte antifasciste. Ce livre, publié aux éditions Burnout, laisse entendre les voix des militants et militantes antifascistes du groupe antifasciste Lyon et environ. Leurs propos sont réunis par le journaliste Olivier Minot. Vous allez entendre une partie des extraits lus à haute voix par notre groupe de lecture. Bonne écoute. La GAL, ça veut dire groupe antifasciste Lyon et environ. C'était en avril 2018. On est arrivé avec des seaux, du ciment, des parpaings et on a muré l'entrée du local du Bastion Social. C'était une grosse galère, mais c'était vraiment très très cool parce que c'était en même temps radical, illégal. On essaie de sortir des clous, de tout ce que le gouvernement nous autorise comme lutte. Et surtout, c'est très rigolo. Sur cette action, il n'y a pas eu de violence et malgré ça, il y a eu une répression comme si on avait attaqué des personnes, comme si on les avait tapées.
Quelques mois plus tard, il y a eu des perquisitions violentes où ça débarque chez toi assis du mat et où tu te fais braquer au réveil avant d'être emmené en garde à vue. Et après, tu es sous contrôle judiciaire, accusé d'association de malfaiteurs, de dégradation et d'outrage. Outrage parce qu'il y avait un cap tagué sur un des murs à côté du bastion social.
Après le murage du bastion social, un autre groupe, je lis le... la note de bas de page, il s'agit de la cellule DALI pour défense antifasciste Lyon Intramuros. Donc après le murage du bastion social, un autre groupe a décidé, en hommage et en soutien aux gens inculpés, d'attaquer la taboue, le local des identitaires. Ils étaient déguisés en Casa de Papel avec le masque et la combinaison. Ils ont fait une vidéo de leur action.
En plus, le murage, ça a fait un pied de nous au collectif Fermons les locaux fascistes. Note de bas de page. Fermons les locaux fascistes, suite au collectif de Vigilance 69 contre l'extrême droite, est une inter-organisation de gauche qui va de NPA à EELV, en passant par Alternativa et AT. Avec lequel on était en France. Nous, on s'est dit, allez, on va vraiment le fermer.
On a hâte d'assister au procès. Le procès s'est tenu en octobre 2023. Les accusés ont été reconnus coupables de la dégradation, mais dispensés de peine. J'espère qu'on va pouvoir rigoler, parce qu'il n'y a eu ni mort, ni blessé, et c'était drôle. Et puis, c'est quand même un local fasciste, pas la boulangerie du coin.
Après, ça m'a fait du bien de lire ça. Après, la proposition, c'était à la page 68, et ça commence par « C'est l'histoire de Toto ». Là, je pense qu'il va y avoir pas mal de personnages différents. Oui.
Je me demande juste, t'as dit avant que la gare n'existait plus. Est-ce qu'on sait pourquoi ou...
J'ai pas lu tout jusqu'au bout, je connaissais pas l'histoire, mais ils ont été dissous, c'est ce qu'on se disait avant, ils ont été dissous par l'État.
C'est suite à la loi sur le séparatisme en 2021. Et du coup, ils se sont fait surveiller par l'État et je pense qu'ils ont démonté. Mais là, ils disent à un moment que durant, je vais dire pendant le règne de Macron, mais c'est là où il y a le plus de dissolution de collectifs depuis qu'il est en poste. Voilà. Et l'outil de dissolution, là, ils disent, enfin la loi séparatisme, qui date de 2021, ils disent cet outil destiné originellement à lutter contre les ligues fascistes dans les années 30. Aura fini par se retourner contre des groupes antifascistes. Il ne s'agit pas d'un dévoiement malheureux. La dissolution administrative a toujours été utilisée pour essayer de mater les lignes intérieures. Voilà. Et du coup, il y a eu des procédures qui fait que le Conseil d'État a appelé à la dissolution et qu'en gros, s'ils se réunissent et qu'ils continuent à militer ensemble, ils sont passibles de peine et de délit. Ça, on peut expliquer les questions.
Il y a Yasmine.
Mais du coup, c'est à quelle page on est...
68.
Ah, 68. Je peux faire Yasmine.
Allez.
Je peux faire Com.
Tu fais quoi?
Il y a du Lucas.
Il y a qui encore?
Il y a Mathéo et Lucas aussi.
Mathéo.
Ok, je vais passer.
Ah non, beaucoup.
Ah non, mais c'est bon après.
Ok.
Attends, mais je peux pas faire. Tiens.
Ok. Merci.
Mathéo, Mathéo c'est bon, il y a ZD, enfin Z ou.
Moi je peux faire ça. Je vais faire Z.
Je fais Z.
Z.
Il y a Lucas aussi.
Lucas on a déjà dit ?
Non.
Lucas ?
Lucas on va te faire Lucas ?
Moi je peux faire.
Je vais faire. Mm-hmm. Je pense que c'est déjà pas mal, là ça nous fait aller jusqu'à porter le gilet jaune. Mm. Tout le monde et puis. Soit on garde les rôles ou on les réussit.
Moi je faisais ça.
Ouais, non, mais faut se rappeler.
La préparation.
Deux trucs questions.
C'est vrai, si je commence. Okay. C'est l'histoire de Toto. Quand tu vis ce genre de tension avec d'autres groupes et que les gens te renvoient, mais vous êtes sérieux, vous êtes du même côté de la barricade, forcément tu doutes. Est-ce que je fais de la merde ou est-ce que c'est une question de divergence politique? Mais en rencontrant les gens en France, en Italie, en Suisse, où tu veux, tu te rends compte qu'il y a les mêmes types de conflits partout. Et d'autres groupes l'ont déjà vécu aussi avant, il y a 10, 20, 30 ans. Et ça continuera d'arriver parce qu'il y a un côté qui est prêt à se rallier à tout et à n'importe qui pour servir son intérêt. Et il y a un autre côté qui est prêt à tout faire, même niveau lutte armée, pour vraiment renverser et changer les choses. C'est vraiment la question du renversement. Comment on va le faire et ce qu'on va faire après, qui plie. Par exemple, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de police et qu'on puisse réfléchir ensemble à ce qu'on fait une fois qu'on a aboli la police. Mais je ne pense pas que de l'autre côté, ce soit la même chose. Peut-être qu'un jour, des gens prendront en compte nos erreurs et trouveront une autre stratégie que l'affrontement. Peut-être que nous-mêmes, on finira par trouver, mais pour moi, ce conflit reste inévitable. C'est un conflit entre l'autonomie et les autres. Après, même entre nous, je ne suis pas certaine qu'on soit d'accord sur ce qu'on veut dire exactement par l'autonomie.
Pardon, j'ai juste une mini-interruption. En fait, Yasmine, à quoi elle fait référence là? C'est... je vous ai pas dit. C'est... surtout un affrontement qui a eu, enfin c'est pas un affrontement mais une séparation qui a eu entre des groupes antifascistes. Puis du coup c'est de ça que toute la gale a été hyper affectée et parce que notamment une chose dont qui est décrite dans les passages précédents, c'est pas seulement une distance qui s'est faite à cause de divergences politiques lié au fascisme, mais en fait vraiment au fait qu'il y a une personne, je crois, qui faisait partie de la GAL, qui a été, ou lors d'une organisation d'un festival, je sais pas quoi exactement, un type qui a été accusé de viol, et puis en fait c'est remonté, cette histoire elle était ancienne, et elle est remontée par en fait des groupes, un groupe féministe qui apparemment s'est réapproprié, mais qui a fait ressurgir cette histoire sans le consentement de la personne qui était victime. Et du coup, à partir de ce constat-là, il y a eu une dissociation. Il y a des gens qui ont dit non, en fait, whatever, c'est un violeur. Et d'autres ont dit oui, peut-être, mais en fait, on ne va pas le tèche si en plus la victime, elle n'a pas dit ou je ne sais pas quoi. Bref, j'explique hyper mal, c'est pas hyper bien expliqué non plus. Hein. Mais du coup, si j'ai bien compris, il y a eu vraiment cette séparation-là qui s'est faite. Donc. C'est un assez long moment du livre où en fait Yael parle en fait de ça qui les a beaucoup affectés parce que c'était un groupe la gale qui faisait presque 40 personnes et puis après ça ils se retrouvent genre à 8. Mmh. Tellement les gens ils ont quitté en masse, genre en mode en fait vous soutenez les mauvaises personnes. Et c'est aussi pas évident comme lectrice de lire ce moment. C'est pas. En fait, un bout, j'étais pas non plus hyper d'accord avec ce que la gale a fait. Pour même temps, je savais pas trop, j'avais pas assez d'éléments. Du coup, je sais pas si peut-être dans la suite du livre, c'est quelque chose qui revient ou pas. Mais je trouvais que c'était un moment assez cool de partage. J'aurais peut-être dû, d'ailleurs, qu'on le lise, maintenant je m'en rends compte. Mais voilà, j'ai fait des choix comme j'ai pu. Désolé. Voilà, pardon. Mais du coup, ça faisait référence à ça.
Quand j'étais plus jeune, tout au début de la gale, les gens me disaient « Toi, t'es un toto parce qu'en manif, tu vas jamais respecter le cortège. » Donc je me disais que ça devait être péjoratif, mais je n'arrivais pas à comprendre les critiques.
Depuis que je suis entrée dans le milieu militant, j'ai tout le temps entendu « les totos, les totos, les totos », comme si c'était une espèce de secte sombre, hyper puissante, hyper organisée, avec des réseaux souterrains et clandestins implantés dans le monde entier. Il y avait vraiment une dimension de fantasme.
On ne s'est pas revendiqué dès le début de l'autonomie politique, mais c'est à force de militer de manière indépendante
On s'est rendu compte qu'on faisait les choses comme les autonomes. Squatter, organiser des concerts, des spectacles, faire ses propres tracts, produire des écrits théoriques, être dans l'action directe. Puis on voulait être en rupture avec la gauche social-démocrate, en rupture avec les partis, en rupture aussi avec des grands syndicats, parce qu'on se rendait compte que c'était un jeu de théâtre où les gens se battaient pour prendre la parole au nom des autres. Et nous, on voulait que personne ne parle à notre place.
C'est se leurrer que de se dire qu'on est autonome. Un groupe comme la GAL, pour moi, ça reste une organisation. Chez certains totos, dans les milieux squats, les médias comme Lundi Matin ou Contre-Attaque, il y a une dérive plus esthétisante que concrète, dont le moteur serait une avant-garde éclairée par je ne sais quel miracle, avec un mépris pour les organisations syndicales et une espèce de volonté d'entre-soi qui serait pure. Alors oui, c'est bien d'être tatillon, mais si notre objectif c'est la révolution, il faut quand même réussir à faire masse. Dans l'idée de ne pas avoir trop d'ennemis, parce qu'on en a suffisamment ailleurs. Donc je trouve bizarre, par exemple, de traiter la CGT de réformiste quand tu vois que la CGT Docker fait une émeute dès qu'elle le peut. Donc, il y a bien des gens qui ont des gamberges révolutionnaires, même dans les syndicats comme la CGT et FO. Mais nous, comme eux, on se coltine des tas de préjugés esthétiques.
Pour moi, l'autonomie, c'est d'abord l'autonomie italienne des années 70. Le dépassement des bases syndicales, le fait de s'autonomiser des partis traditionnels et de revendiquer une radicalité qui apporte concrètement un changement dans la manière dont les gens se mobilisent et dans le rapport de force que tu poses avec l'État. C'est ensuite l'autonomie allemande qui porte des modes de violence très offensifs dans la rue. Et puis, bien sûr, sur l'histoire d'une certaine frange de l'autonomie française qui, depuis 2016, se retrouve autour du cortège de tête et qui se dit en fait, on est des milliers à ne plus se retrouver dans les organisations traditionnelles militantes et dans les partis politiques. C'est enfin l'autonomie en tant que théorie politique, comme une pensée de la reprise en main collective de nos vies sans aucune médiation extérieure. Donc cela questionne notre rapport à l'État, à la police, même au commerce et aux soins. Je pense qu'il faut savoir tirer des leçons de l'histoire d'Action Directe. Je lis la note de bas de page de ce que c'est l'Action Directe. Groupe pratiquant la lutte armée en France. Au début des années 1980, il a revendiqué des attentats et des vous m'avez comprise, comme celui du général Audran ou de Georges Besse, le patron de René. Donc je reprends. Je pense qu'il faut aussi savoir tirer des leçons de l'histoire d'Action Directe et du maoïsme révolutionnaire. On a vu des limites avec la répression immense qu'ils ont subie pour le peu de répercussions qu'ont eu leur action. Je pense qu'ils étaient allés tellement loin dans leur pratique que c'était plus possible pour eux de revenir en arrière et d'être en phase avec la réalité et le niveau de violence que les gens étaient prêts à aborder. En tant que révolutionnaire, je veux la révolution, quels qu'en soient les moyens, autant je pense qu'il est important de capter l'époque. L'époque pour identifier laquelle de tes actions aura un vrai sens révolutionnaire, en ce qu'elle tendra les masses à un niveau de violence et de conflictualité avec l'État qui est plus important. Et quelle action est juste de la radicalité de posture, puisqu'elle va simplement t'isoler et faire qu'au contraire, les gens ne vont pas augmenter leur niveau de violence, mais le redescendre. Mais capter l'époque, ça ne veut pas dire non plus attendre le grand jour où les masses vont se révolter. Il faut trouver un espèce d'entre-deux. On peut augmenter les niveaux de violence nécessaires pour combattre l'État, tout en restant dans une espèce d'emphase avec soit le mouvement social qui est en train d'avoir lieu, soit l'époque dans laquelle tu vis. Que tu sois pas un extraterrestre qui pose des bombes alors qu'en fait les gens ils ont déjà du mal à manifester. Porter le gilet jaune.
On continue avec ça ? Ou on s'arrête là, je sais plus.
Ok. Comme vous voulez.
Du coup, j'ai Yasmine. Enfin, en fait, on garde des trucs ou je sais pas. On n'a pas adhéré tout de suite au gilet jaune. Donc, j'ai la note de bas de page. Le mouvement des Gilets jaunes est né en novembre 2018 contre l'augmentation du prix des carburants, puis s'est élargi à d'autres revendications allant de visibiliser les invisibles, à renverser le système en passant par lutter contre la précarité. Comme dans toute la gauche, il y a eu un temps de formation. D'autant plus qu'au début, à Lyon, les FAF étaient au service d'ordre et tenaient la première ligne, ce qui a été compliqué quand on est arrivé un mois après le début du mouvement en mode « Coucou, c'est nous ».
Au début, on a eu ce mépris que peut avoir la gauche envers les classes populaires, entre guillemets, non éduquées, non politisées. Mais quand on a vu comment c'est parti à Paris, l'aspect insurrectionnel qu'il y avait dans ce mouvement-là, on s'est dit que si on n'y allait pas, on allait passer à côté de quelque chose.
Ce qui était impressionnant, c'était la vitesse à laquelle ce mouvement a pris et la violence qu'il a engagée dès le début. La rage des gens de par leur vécu et leur précarité. Ça allait tellement plus vite qu'avec de simples manifs intersyndicales ou de simples cortèges de têtes que ça donnait espoir que ça aille plus loin, peut-être d'atteindre le pouvoir. On a aussi réalisé que le mouvement ne viendrait pas forcément de nous, qu'on n'était pas indispensable.
Faut que Zoé se... Faut quelqu'un fasse Zoé.
Ah, alors je
l'ai. Je peux l'entendre. C'est juste là.
C'est
pas grave.
C'est moi. Autant, j'y vais. Autant c'était une erreur de ne pas avoir investi rapidement ce mouvement. Autant quand on s'est impliqué, on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de faf et de conspi.
T'avais l'Action française, les anciens du bastion social, les hooligans du stade. Et moi, jamais je n'accepterais de m'allier stratégiquement avec l'extrême droite française. Je ne peux rien faire aux côtés des militants identifiés de l'Action française ou des identitaires. La légende de la résistance qui serait l'alliance des communistes et des patriotes, je la refuse. Par contre, je ne vais pas aller taper un gilet jaune qui me dit qu'il vote FN. La prise des ronds-points, l'autogestion, la vie commune, la solidarité, c'était bien éloigné des valeurs fascistes. Alors même si ce mouvement était rempli de personnes d'extrême droite, c'était aussi notre rôle en tant que révolutionnaire d'être présent pour mener une bataille culturelle.
On y a été, les potes se faisaient taper par les faf, mais ils tapaient aussi des gens lambda qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc notre rôle a été d'expliquer qui étaient les faf.
Un pote a failli perdre un œil dans une baston. On s'est fait défoncer, courser plein de fois, obligé de partir parce qu'ils étaient en surnombre. Alors on a dû faire un travail de longue haleine, on allait à toutes les AG des gilets jaunes sur les ronds-points. On s'est confronté à des personnes qui disaient « Mais nous, on n'en a rien à foutre de vos embrouilles de merde et on ne prendra pas parti. »
J'ai pris la parole à une grosse assemblée générale des gilets jaunes à la Bourse du Travail. La salle était blindée et ce n'était pas comme un amphi de la fac. Là, c'est des darons, des daronnes, des gens de la campagne, des gens que tu connais pas. Il fallait leur faire comprendre que ce que c'est exactement qu'un groupe de faf, expliquer que ce ne sont pas des gens normaux, montrer des photos, lister et documenter leur violence. À la fin de ma prise de parole, les gens se sont levés et ont dit « Effectivement, ils n'ont pas leur place ici avec nous, on va se défendre ensemble. » C'était super fort et ça a aussi permis de s'organiser pour préparer le fameux acte 13, qui est, pendant le mouvement des Gilets jaunes, chaque manif, généralement le samedi, était compté comme un nouvel acte.
Pour l'acte 13, on a appelé un cortège antifasciste dans le mouvement des Gilets jaunes. On s'est préparé un mois en amont. On était une soixantaine à se retrouver au collège Maurice Sèvres. Note de bas de page, le collège Sèvres, du coup, c'est collège désaffecté, squatté, qui a accueilli des centaines de jeunes réfugiés pendant plus de 2 ans, donc en 2018 et 2020. Donc, on s'est préparé au moins un mois en amont, on était une soixantaine à se retrouver à ce fameux collège. On s'entraînait à se déplacer ensemble, à se battre, à se tenir, à faire des jeux type « tu fermes les yeux, tu fais confiance à la personne qui est devant toi ». On s'exerçait aussi à des bagarres collectives, des lignes de 20 contre 20. On se tapait pas, mais il y a eu quand même quelques blessés. C'était vraiment une espèce d'entraînement commando. Et là, ça a évidemment totalement dépassé le cadre de la gale.
C'est la seule action de ces dernières années qui a été une pure union de toutes les forces antifascistes. Que cela soit les syndicats, les partis politiques et même certaines personnes de la GJ qui sont venues avec nous le même jour pour virer les faf.
Après une longue préparation de plusieurs semaines, le jour J de l'acte 13, le 9 février 2019, on était prêts physiquement. Il y avait des gens devant, des gens derrière, des banderoles renforcées, des bâtons, des choufs. J'ai la note de bas de page. Un chouf est une personne qui fait le guet. Ici, ce sont les gens chargés de surveiller le cortège fasciste. Il y avait des choufs qui tournaient.
Certains avaient des casquettes coquillées, des masques, des talkie-walkies. Tout le monde avait un rôle hyper précis. Il y avait des lignes prêtes à se battre avec des bâtons, une banderole de tête qui avait pour mission de soit stopper le cortège, soit le protéger si l'attaque venait de devant. Je n'avais jamais vécu une organisation aussi carrée.
Moi, j'étais la référente des antifas suisses qui étaient venus en soutien.
Moi, j'étais à la banderole de l'avant.
Moi, j'étais à la banderole de l'arrière, et au moment où on est arrivé, Cour Lafayette, donc la Cour Lafayette, c'est la grande artère de la rive gauche lyonnaise qui part du centre-ville pour relier Villeurbanne en passant par la gare de Pardieu. Bref, donc moi, j'étais arrivée à la banderole de l'arrière, et au moment où on est arrivé au Cour Lafayette, Les FAF nous ont attaqués à 80 par derrière. On a arrêté la banderole, toutes les lignes de défense qui étaient prévues se sont mises devant, face à eux.
Dans le groupe de FAF qui attaquait, il y avait tout le bastion social qui venait d'être dissous, des anciens des identitaires, des néo-nazis du Beaujolais et du Stade de Lyon. T'avais pas mal de gens de Paris, des gens des Zouaves, groupe néo-nazi parisien dissous par le gouvernement en 2022. Ils étaient presque une centaine et nous on était aussi une centaine. C'était un 100 contre 100, c'était Braveheart.
La baston a duré plusieurs minutes. Notre objectif à l'avant, c'était de rester compact avec la banderole pour contenir les gens en soutien et qu'on reste tous et toutes compacts et solidaires avec les gens qui se battaient à l'arrière.
C'était un peu particulier parce qu'on a forcé les gens à rester dans le cortège, mais ça nous a quand même beaucoup servi. Derrière la banderole, j'avais l'impression d'assister à une guerre médiévale. Heureusement, des projectiles de partout, mais ça ne me faisait pas mal parce que j'étais blindée de protection. On en envoyait aussi et à un moment, boum, les potes ont chargé.
C'était le chaos total. Du bruit, des cris, ça tapait et pour moi, c'était interminable. L'image que je garde, c'est quand t'as tous couru avec la banderole en hurlant pour les chasser.
Et ils se sont enfuis, certains sont tombés et se sont fait sabater. Les flics sont intervenus pour nous gazer, ce qui leur a laissé le temps de se barrer. Et ça s'est terminé par un énorme cri de joie.
Des cris de joie, de victoire, quoi.
J'avais jamais vécu ça. C'est la fois où j'ai eu le plus de frissons dans ma vie en raison d'une victoire politique. On était tellement heureux qu'on a fait la fête toute la nuit.
C'était une belle victoire pour Lyon. Ça prouvait à tout le monde que les FAF pouvaient être sans gros entraînés. Okay. Parce que les 100 houles qui sont venus à nous, ils étaient vraiment là pour taper. Mais l'Union les a fait fuir définitivement du mouvement. Et je suis sûre que cette histoire restera dans l'histoire du mouvement des Gilets jaunes.
La légende s'est répandue dans les cortèges lors des actes suivants. Les Gilets jaunes se sont fait agresser par les FAF pendant l'acte 13 et c'est le Black Bloc qui les a combattus en héros. Et par la suite, l'imaginaire antifasciste s'est répandu dans le mouvement. Certains Gilets jaunes ont même créé des groupes antifas.
C'était le scénario qu'on n'osait pas espérer. Virer les fascistes du mouvement et qu'ils ne se sentent plus légitimes à tenir la rue. Et que nous, on se sente de nouveau en confiance et pas stressé de se prendre des droites. Je pense que c'était essentiel et important parce que ça leur a montré que s'il y avait un autre mouvement social, il ne faudra pas essayer de remettre les pieds dedans.
Pour nous, c'était aussi une victoire parce qu'on a eu une organisation avec tout le milieu lyonnais. On a soudé des liens et des solidarités avec les gens. Certains gilets jaunes ont même rejoint la GAL par la suite.
Je sais pas ce que vous voulez. Je sais pas quelle heure c'est.
C'est 17h35. C'est-à-dire que si on refaisait une demi-heure, il resterait 10 minutes. On a fait une pause jusqu'à 17h15.
Ah oui,
du coup, ouais.
C'est un peu comme vous voulez. Je sais pas. Là, c'est un peu bizarre. Je crois que j'ai vraiment hyper mal coupé le dernier bout. Je pense que j'ai coupé. Là, il y a. Dans la photocopie, en tout cas, ça tourne. Ça va de 79 à 82. Parce qu'en fait, 83, il est coupé. La page 83, je veux dire.
Peut-être qu'on a juste le temps de finir ça en 10 minutes.
Oui. Puis après, on peut discuter un peu de la suite si vous voulez aussi. Comme ça, on a encore un peu de temps.
On est à quelle page, pardon ?
Du coup, ça, en fait, l'idée, c'était de continuer.
Sur les amis, les amours et les ruptures.
Ouais. Okay. Et de s'arrêter à 82, à la page 82.
Okay. Ouais.
Vous voulez changer les personnages ?
Moi,
c'est à d'autres personnes qui lisent. Ouais.
Tu veux faire une carte ?
Tu veux que je prenne toi ?
Ok. Alors, qui aimerait reprendre ZD ?
Moi, je peux refaire.
Tu veux faire ZD ? Lucas, il y a. Bon, moi, je peux prendre Com.
Bah, c'est toi.
Et je crois que c'est. Ah ouais. David, tu veux
Non, mais.
Si, vas-y.
Je suis qui alors ?
Moi, j'avais Com. Tu étais d'accord ?
Ouais, ok. Ça va.
Les amis, les amours, les ruptures. J'ai un peu vadrouillé après être partie du domicile par mon père. J'ai été prise dans une école d'art à Lyon. Je m'y attendais pas du tout, alors je suis partie comme un paix sur une toile cirée.
C'était exprès. Allez.
La vie est bon. C'est mon expression. Mais je me sentais pas d'aller à Lyon, que je savais être une ville gangrenée par les fachos, sans continuer de militer dans un truc antifa. Je suivais ce que faisait la GAL depuis l'acte 13 des Gilets jaunes. Du coup, je les ai contactés sur les réseaux sociaux. On s'est rencontrés en septembre 2020. Ils étaient un peu sceptiques, il y avait de la suspicion, genre je suis une indique.
Ça nous est arrivé que quelqu'un nous dise « Je voudrais vous rejoindre, j'arrive de Paris où j'ai milité pendant 2 ans avec l'AFAPB. Je les connais tous. Puis tu contactes l'AFAPB et en fait, ils ne connaissent pas du tout la personne. » À l'inverse, on a reçu des fois des appels d'autres groupes antifa. Votre pote là, il est arrivé à Lille, il a dit qu'il vous connaissait. Et en fait, pas du tout. J'avoue, j'ai du mal avec la mythomanie politique, ça me fait trop peur. Même si je sais que la personne ne le fait pas méchamment, elle veut juste trouver une légitimité, parce qu'on est dans des milieux très fermés, et que c'est problématique. Mais pour Z, ça a été vérifié facilement.
Et puis ZD, c'était une fille. On accepte plus facilement les filles. Parce que tous les mois, il y a des mecs qui nous écrivent pour entrer dans le groupe en mode « Je veux chasser les faves. » Et nous, c'est pas ce qu'on cherche en premier lieu.
De toute façon, on refuse d'être dans des logiques de recrutement puisqu'on ne veut pas être une organisation hégémonique. Plutôt que de se retrouver à plein et que ça devienne un bordel pas possible, on va plutôt favoriser la création de nouveaux groupes. Mais quand une personne nous demande d'intégrer la GAL, on a besoin d'une certaine confiance. Alors on lui demande d'abord de venir à plusieurs événements, mais on va aussi par exemple aller manger des kebabs ensemble, pour apprendre à se connaître.
On a donné sa chance à Zédé. On lui a dit, viens nous rencontrer, viens au manif, viens sur nos tables de presse, viens aux soirées ouvertes, tu discutes avec nous. Puis après, c'est le feeling.
Donc j'étais en période d'essai. On allait faire des collages, les suivre en manif, et là je faisais du zèle. Je prenais la banderole, ça m'allait de tenir une ligne face au keuf, même si on était au corps à corps. J'avais besoin de prouver que j'étais pas une mouille, une lâche qui se chie dessus à la moindre lacrymo. Mais aussi que je pouvais tenir la route, quand on faisait des incursions au Vieux Lyon pour aller mettre la pression au faf. Bref, je montrais que je n'avais pas peur. Même si évidemment j'avais super peur. Et puis je suis une meuf, et de manière générale, il faut faire ses preuves doublement, surtout sur les trucs physiques des manifs de tape avec les fascistes. Avec les faf. J'ai perdu ma street cred.
C'était le mais non. Tu te les as tous dit.
Sûr d'avoir compris.
C'est clair. Merci.
On ne vérifie pas ça sur les manifs et sur l'État. Le seul truc qu'on fait comprendre, c'est d'être assidu. Si tu peux venir juste de temps en temps, ça sert à rien. Et dans ce cas-là, tu restes juste sympathisant. On fait la différence entre sympathisant et mobilisant. Soit tu restes sympathe, on continue à te voir en soirée, on fait les manifs ensemble, soit t'es militant, et là il faut participer aux réunions, proposer des textes, etc. Et ça, ça prend du temps, du mental, bref, ça te prend un peu de ta vie.
On essaie de se réunir en 2 et 3 fois par mois, et on va aussi aller dans d'autres réunions où on manif en tant que GAL. Et tout ça, ça se prépare en amont.
Au-delà des manifs, à chaque fois que je les voyais, je proposais d'écrire un texte pour prouver qu'intellectuellement aussi, on pouvait être d'accord. J'ai fait tout ce zèle parce que j'étais motivée et que je voulais leur montrer que j'étais pas juste une diandiante, que je pouvais vraiment les aider et leur apporter quelque chose.
Lorsqu'une personne revient plusieurs fois et montre son intérêt à vouloir rentrer dans le groupe, c'est débattu en réunion. À la GAL, on ne vote jamais. On prend les décisions au consensus. Quand il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, on va essayer de trouver un arrangement. Ce mode d'organisation prend du temps pour acter les choses, mais il est hyper important pour le niveau de radicalité du groupe qui nécessite une confiance importante entre les gens. Aussi, on a envie de faire très attention à ce que tout le monde se sente considéré, que chaque parole ait du poids et du sens. S'il y a une seule personne qui met un veto, la personne ne rentre pas dans le groupe. Par contre, on considère que le veto doit être absolument motivé. Une fois, il y avait un couple dans le groupe. Une personne demande à nous rejoindre et la meuf du coup pose son veto sans expliquer. Et de fil en aiguille, on a compris qu'elle avait posé son veto par jalousie, de peur que la personne qui voulait rentrer veuille pécho son mec. C'était pas sérieux. En plus, au final, elle a pas pécho le mec. Mais en gros, c'est ça le recrutement à la gale.